Patrick Derry. Il n'a pas peur du succès des autres. Il s'inspire du meilleur pour créer ce qui se fait de mieux ici. Savoir et comprendre, Patrick Derry.
Il y a une nouvelle qui est tombée la semaine passée qui disait en gros ceci, le Québec affiche toujours la proportion la plus élevée de personnes vivant seules au pays. Ce sont des données tirées du recensement de 2021 de Statistique Canada. Et au Québec, on a presque une personne sur cinq qui vit seule, soit 19% de la population. C'est assez élevé quand on le compare. Par exemple, en Ontario et en Alberta, deux autres provinces qui sont assez peuplées, eux, c'est seulement 12 et 13% des adultes qui vivent seuls. C'est un écart qui est quand même assez considérable. On l'explique par différents facteurs. Il y en a qui c'est des facteurs sociaux et culturels, c'est-à-dire que dans d'autres communautés, c'est plus fréquent de vivre dans des de façon multigénérationnelle, c'est-à-dire plusieurs générations au sein d'un même foyer. Ça existe aussi au Québec, mais c'est plus répandu à travers ailleurs au pays. C'est plus répandu aussi dans des communautés qui sont arrivées plus récemment. Et il y a aussi des facteurs qui sont liés au coût. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y a une crise du logement, malgré le fait que les nouveaux logements au Québec coûtent très cher, en moyenne, le coût du loyer au Québec est quand même relativement peu élevé par rapport à bien d'autres endroits au pays, notamment l'Ontario et la Colombie-Britannique. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus, parce qu'évidemment, en pénurie de logements, si on est plusieurs à vivre seul, ben, et qu'on le fait de plus en plus, c'est évident que ça a un impact sur la disponibilité des loyers. Par contre, ben, c'est assez difficile aussi de forcer du monde à rester ensemble et à être coloc de force. Donc, et comment qu'on peut résoudre ça? Est-ce que, par exemple, les loyers, les vieux loyers doivent être un petit peu plus libérés? On sait qu'à l'époque, ça faisait en sorte que des fois, il y avait des appartements qui se splittaient ou qui se regroupaient. Puis, bref, ça faisait plus de mobilité dans le marché. Mais j'ai trouvé que c'est des données qui étaient intéressantes. Et ça nous amène à notre prochain sujet. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui s'est amusé à prévoir, essayer de calculer quels seraient les impacts de l'immigration sur la disponibilité du logement au Québec. Et on en discute avec lui, c'est Charles Gaudreau, il est ingénieur et chercheur indépendant. Bonjour Monsieur Gaudreau.
Bonjour.
Donc, il va manquer combien de maisons d'abord?
Ça dépend de combien d'immigrants qu'on choisit.
OK. Fait qu'allons-y différents seuils pour faire des scénarios. Mettons, si on prend un seuil qui ressemble à peu près à ce que le gouvernement envisage d'avoir comme immigrant, autour de 50-60 000 par année, ça pourrait ressembler à quoi?
Oui, c'est encore dans cette fourchette-là, selon les projections que j'ai obtenues. On aurait besoin de construire à peu près 150 000 maisons d'ici 2052 si les Québécois conservent leur préférence pour les types d'habitation qu'ils préfèrent habiter. Selon les différents groupes d'âge, ont différentes préférences pour le type d'habitation. Maison versus appartement versus logement collectif. Donc, quand on fait des projections comme ça, il faut regarder l'évolution de la structure de la population, le vieillissement de la population, et matcher ça avec la croissance de la demande pour les maisons. Là.
Le Québec est une société qui vieillit vite. Donc, j'imagine que le type de résidence qui est favorisé par les personnes plus âgées va être appelé à se développer plus vite. C'est principalement, bon, évidemment, j'imagine qu'il y a des résidences pour personnes âgées, mais la majorité des aînés restent à domicile. Donc, c'est quel type de résidence qui vont se développer de ce côté-là ou qui vont être en demande?
Ben, je vous dirais que ça n'aura pas un si gros impact que ça sur la demande des maisons, des appartements, des logements collectifs, parce que si on regarde actuellement les logements collectifs, c'est 2% des types d'habitation. Sinon, la balance, c'est des appartements et des maisons unifamiliales. Les maisons unifamiliales, là, on est dans le 51% des Québécois habitent dans une maison individuelle unifamiliale.
OK. La différence entre un logement collectif et un appartement, c'est quoi exactement?
L'appartement, si on parle de logement privé, collectif, là on parle plus, exemple, CHSLD.
OK.
Ouais.
Des résidences, des CHSLD, c'est ça que vous voyez comme un logement collectif?
Ben, c'est, ça va plus que c'est un peu plus large que ça, mais c'est bref, c'est à peu près 2% du type d'habitation. Là. Moi, je me suis basé sur les données de Statistique Canada du recensement de 2016, sur ce qu'eux appellent des logements collectifs et sur ce qu'eux appellent des logements privés qui ne sont pas des maisons. Là.
Selon la lettre que vous avez écrite, là, donc vous arrivez au total, là, j'imagine que ça tient compte aussi d'habitations là, qui vont tomber en désuétude, ça faudrait construire entre 375 000 maisons individuelles et 500 15 000 autres logements privés d'ici une période de 30 ans. Ça, c'est si les seuils migratoires les plus élevés étaient appliqués. C'est bien ça?
Exactement. Puis tout dépend des seuils migratoires. Si on est dans le 30 000 immigrants par année, on est dans un scénario de croissance stationnaire de la population. En fait, la population ne croît pas.
Okay.
Tout ça est basé sur le fait que la population va croître. Et si on regarde au Canada, 80% de l'augmentation de la population canadienne va être due à l'immigration aux alentours de 2036. Donc, c'est l'immigration vraiment qui est le moteur de la croissance de la population canadienne. Donc, selon les seuils migratoires qu'on utilise, ça a un impact direct sur la croissance des logements.
Là. Donc, ça veut dire qu'au Québec, par exemple, dans un scénario théorique où on couperait complètement l'immigration, on mettrait ça à 30 000 immigrants par année, il n'y aurait pas de demande additionnelle de logement?
On serait dans le statu quo, exactement. Puis même que sur le long terme, à un certain point, on pourrait même avoir une petite baisse de la population. Fait que là, peut-être qu'on pourrait dire que, bon, on n'en construit pas ou on en détruit, là, mais oui, si on est dans un cas de population stationnaire, là, ça va être que le vieillissement qui va avoir un impact. Là. Les gens vont préférer peut-être rester plus en appartement et en logement collectif plutôt qu'en maison unifamiliale.
Fait que donc, à ce moment-là, il y aurait peut-être un déplacement vers certains types de logements qui nécessiteraient certaines constructions, mais ça serait moindre. C'est bien ça?
Oui, exactement. L'impact est moindre.
Okay. Vous êtes ingénieur, vous présentez aussi comme chercheur indépendant. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur cette question, sur l'impact du logement, sur l'immigration sur le logement?
En fait, j'avais déjà publié des projections démographiques, des travaux en 2020 dans une revue révisée par les pairs, une revue de démographie. Puis dernièrement, on regarde le printemps dernier, même cet été, les articles qui parlent de la pénurie de logements abordables, c'est des masses. On parle de ça à chaque semaine. C'est intuitif de dire que l'augmentation de la population va faire qu'on va devoir construire plus de maisons, plus de logements, mais j'avais envie de le quantifier, puis l'exercice était assez facile là, avec les données disponibles dans Statistique Canada et les projections que j'avais déjà faites en 2020. J'ai repris la même méthode et j'ai fait qu'un croisement de données, en fait. Là.
OK.
Assez simple.
À partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous seriez porté à dire, ben, on diminue les seuils d'immigration ou ben, on les augmente, mais il faut s'arranger pour travailler d'une autre façon, on laisse ça stable? Est-ce que votre réflexion s'est avancée jusque-là?
Ben, je pense que il faut avoir une approche où on réfléchit à l'impact de tout ça ensemble. Si on se dit, OK, on va augmenter l'immigration pour X raison, il faut dire, OK, ben, ça va avoir un impact sur les logements. On entend souvent le point de vue du patronat qui veut, qui pense à la pénurie de main-d'œuvre, mais il faut aussi penser aux gens qui habitent le Québec, qui sont là présentement, puis qui veulent s'acheter une nouvelle maison. Pour les gens de ma génération, moi, bon, je suis chanceux, j'habite dans une maison, mais je pense aux gens de ma génération, c'est pas toujours facile de s'acheter une première maison, ce qui n'était pas le cas de la génération de nos parents. Et comme l'immigration arrive en majorité dans les grands centres, comme à Montréal, autour de 85% de l'immigration va dans la région métropolitaine de Montréal, ben ça crée une demande dans cet endroit-là. Là. C'est pas juste les maisons, c'est les appartements, c'est tout, là, tout ce qui est logement.
Fait que donc, vous en somme, vous avez pas nécessairement de position sur qu'est-ce qu'on doit faire sur l'immigration. Vous cherchez à donner des outils, j'imagine, pour la discussion sur la place publique.
Oui, je pense qu'il faut que ça soit inclus dans la réflexion. Qu'on monte ou qu'on baisse les seuils migratoires, il faut qu'on pense à cet impact-là, cet effet-là. Ouais.
OK. Ben, c'est intéressant. Écoutez, Charles Gaudreau, je rappelle, vous êtes ingénieur et chercheur indépendant. Merci beaucoup pour vous avoir pris le temps de faire cette recherche-là d'abord puis de contribuer à la réflexion publique.
Ça fait plaisir.
Écoutez, quand même quelque chose d'assez intéressant parce que le débat sur l'immigration, c'est souvent fait dans une perspective identitaire. D'un côté, on va dire ça en prend plus. Le Conseil du patronat, par exemple, voudrait avoir des seuils de 90 000 immigrants par année, alors que présentement, on est autour de 50 000. En tout cas, c'est les seuils que le gouvernement prévoit poursuivre présentement. Il y a l'aspect économique, il y a les aspects identitaires, en prendre moins, en prendre soin, parce qu'évidemment, il y a la question du français, il y a la question de tout le débat sur la laïcité aussi, dépendamment de leur des immigrants. Puis là, je présente ça de façon neutre, sans prendre parti d'un côté ou de l'autre. Mais évidemment, il y a cet autre aspect-là, c'est-à-dire que on est en pénurie de logement qui est, en tout cas, pénurie de logement abordable, qui est assez sévère. Il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre. Les chantiers de construction vont pas généralement aussi vite qu'ils pouvaient aller avant la pandémie. La demande qui augmente va aller dans ce sens-là. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et à intégrer à la discussion politique. C'est-à-dire, OK, ben c'est correct, on va y aller avec 50, 60 000 immigrants par année, mais watch out, ça va prendre quand même un certain nombre de maisons qui vont devoir habiter, permettre à ces gens-là d'habiter. Comment on va faire ça? D'un autre côté, si on dit, ben regardez, on va réduire les seuils d'immigration, on va les garder à 30 000 par année, là, ce qui est plus bas là, que tous les partis présentement là qui sont représentés à l'Assemblée nationale, ça a d'autres conséquences aussi, parce que là, on a une société qui vieillit, c'est-à-dire qu'on avait moins, dans les années 70, on avait plusieurs paires de bras pour prendre soin d'un aîné. Après ça, ça a diminué présentement, et ça va diminuer encore. Donc, on va se ramasser avec beaucoup de gens qui devront être pris en charge à certains niveaux dans une population vieillissante. On sait, par exemple, dans les CHSLD, dans le système de santé, il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'immigration aussi. Donc, ça soulève quand même des questions qui sont assez intéressantes et c'est intéressant aussi de les voir d'un angle qui est dépassionné et qui est pas teinté par des préférences idéologiques.